les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, monsieur le professeur Philippe Aquileas, professeur de droit à l'Université Paris-Sud, Paris-Saclay, directeur de l'IDEST et du Master de droit des activités spatiales et des télécommunications, nous dessine les contours du droit de l'espace. Épisode, la guerre des étoiles.
Bonjour aux auditeurs d'Amicus Radio, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la guerre des étoiles. Le traité de l'espace de 1967, signé par les États-Unis et l'URSS, avait été présenté comme l'un des premiers traités de désarmement. La guerre des étoiles était évitée, c'est ce que l'on pouvait lire dans la presse. Et c'est vrai que l'article 4 du traité de l'espace pose le principe de l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique. Mais derrière ce principe se cache une toute autre réalité. D'abord, il faut bien comprendre les liens qui existent entre le spatial et le militaire. Ce sont d'abord des relations basées sur la technologie, car les technologies spatiales reposent en réalité sur des technologies militaires. Le lanceur qui a permis à l'URSS de lancer Sputnik en 1957 n'est rien d'autre qu'une version améliorée de la fusée V2 mise au point par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, ce qui est clair, c'est qu'aucun État ne peut jouer un rôle politique et militaire s'il ne dispose pas de ses propres capacités spatiales, d'un accès indépendant et libre à l'espace et d'un réseau d'informations complet et aisément accessible. Autrement dit, pour intervenir militairement à l'extérieur, il faut les satellites. Faute de quoi, notre armée serait aveugle et muette. Une grande puissance militaire se définit donc par un accès autonome à l'espace et une capacité de frappe nucléaire. C'est pour cela d'ailleurs que les deux programmes, spatiaux et nucléaires, sont souvent menés simultanément. Enfin, les programmes militaires permettent de soutenir l'industrie spatiale par le biais de marchés publics qui sont signés et qui sont captifs pour les entreprises nationales. C'est la raison pour laquelle, très rapidement, l'Assemblée générale de l'ONU a été amenée à revoir sa position sur l'utilisation pacifique de l'espace. En 1958, un an après le lancement du premier satellite artificiel de la Terre, l'ONU adopte sa première grande résolution sur l'espace, intitulée « Question de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques ». Et le texte précise que l'espace doit être utilisé à des fins exclusivement pacifiques. Un an plus tard, en 1959, une deuxième résolution est adoptée, intitulée « Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique ». Et là, le vocabulaire a changé, puisque le texte précise qu'il est de l'intérêt commun de favoriser l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques. L'adverbe « exclusivement » a disparu, ce qui signifie que certes, les États doivent encourager l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques, mais que d'autres fins sont possibles, notamment des fins militaires. Le traité de l'espace de 1967 va venir entériner cette philosophie, puisque son article 4 prévoit deux régimes. Précise que les corps célestes doivent être utilisés à des fins exclusivement pacifiques. On retrouve donc l'esprit d'origine, c'est-à-dire aucune activité militaire n'est autorisée sur la Lune et les autres corps célestes. En revanche, pour ce qui est de l'espace circumterrestre, c'est-à-dire les orbites autour de la Terre, ce qui est interdit, c'est de placer en orbite autour de la Terre une arme de destruction massive. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'il est possible d'utiliser l'espace d'abord pour le transit, d'armes de destruction massive, mais aussi pour placer autour de la Terre d'autres armes que des armes de destruction massive. Et ces armes, elles existent déjà. Ce sont ce qu'on appelle les satellites anti-satellites qui ont été lancés depuis la guerre froide par les États et qui peuvent détruire des satellites ennemis. Ce sont également ces tirs de missiles lancés depuis la Terre visant des satellites à des fins expérimentales. La Chine, les États-Unis et plus récemment l'Inde ont démontré la capacité de détruire leurs propres satellites, c'est-à-dire la capacité de détruire, pourquoi pas, des satellites ennemis. L'espace est donc une zone hautement militarisée, arsenalisée, c'est-à-dire qu'il y a des armes dans l'espace. Et par ailleurs, comme je l'avais indiqué, les États ont recours aux satellites d'observation, de télécommunication, de météorologie, de navigation, de localisation, pour soutenir leurs forces armées. Alors, peut-on prévenir une course aux armements dans l'espace extra-atmosphérique ? C'est le souhait de l'ONU et de plusieurs États, mais les grandes puissances ne sont pas d'accord. En tout cas, elles ne sont pas d'accord sur le principe ou la méthode pour garantir cet espace sans armes. En 2008, la Russie et la Chine ont présenté un projet de traité sur la prévention du déploiement d'armes dans l'espace extra-atmosphérique. Mais les Américains s'opposent à cette initiative, considérant d'une part qu'il est très difficile de vérifier la réalité des opérations dans l'espace extra-atmosphérique, donc comment savoir si une arme est déployée ou pas, et d'autre part, qui dénonce le double langage de la Chine notamment, puisque parallèlement à ce texte, la Chine a procédé à des essais d'armes anti-satellites. Les Américains sont convaincus qu'il s'agit là d'une initiative visant à ralentir l'avance militaire américaine dans l'espace et donc ne soutiennent pas ce traité. L'ONU a alors mandaté un groupe d'experts gouvernementaux pour réfléchir aux mesures à prendre pour garantir la sécurité dans l'espace extra-atmosphérique. En 2013, le groupe d'experts rend son rapport et souligne qu'il est possible, voire souhaitable, de mettre en place des mesures de transparence et de confiance relatives aux activités spatiales. En somme, que les États communiquent sur leur politique spatiale, mais on ne peut pas aller plus loin. En tout cas, on ne peut pas aujourd'hui organiser une vérification ou des inspections des sites de lancement, car les États s'y refusent. Nous sommes donc loin de l'esprit idéaliste du traité de l'espace et les choses ne vont pas s'arranger puisque le président américain Donald Trump a déclaré l'année dernière, en 2018, la volonté de mettre en place une armée spatiale. Nous nous acheminons donc bien vers une guerre des étoiles.
Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.